En défense de droit, on s'adresse souvent à des avocats, mais il ne faut pas oublier que les notaires sont là, et surtout quand il est question de contrat. Donc avec nous, un des notaires spécialisés sur les questions du handicap, Maître Laurent Fréchette. Bonjour Maître Fréchette.
Oui, bonjour M. Lassette.
Merci d'être avec nous. L'hiver ne vous inquiète pas trop?
Écoutez, il nous manque une partie de notre personnel aujourd'hui.
Oui, mais, je peux imaginer.
C'était à titre préventif qu'on voulait s'assurer qu'ils ne prennent pas de chance d'y laisser leur peau.
Bon, ben, écoutez, merci beaucoup de prendre soin des gens. Et donc, vous en prenez soin de toutes sortes de manières, mais je voudrais savoir, par curiosité, comme les gens qui nous écoutent, quel acte les notaires peuvent faire directement en lien avec les personnes en situation de handicap?
Évidemment, tout est sujet au type d'handicap. Évidemment, si on est dans un cas d'handicap intellectuel, vous comprendrez qu'on va être un petit peu plus limité dans les documents qui pourront être faits. Encore que il arrive parfois qu'on va être capable, par exemple, avec une personne qui va avoir une déficience intellectuelle légère, d'obtenir un document du médecin qui va nous indiquer que, bien que la personne puisse avoir une certaine limitation, qu'elle est quand même capable, par exemple, de faire une procuration
ou de
rédiger un testament simple. Évidemment, on adapte notre discours avec la personne qu'on a devant nous.
Vous avez l'habitude d'adapter même le langage juridique en présence de personnes qui auraient une déficience intellectuelle?
Je vous dirais, même avec des gens bien portants, on a à adapter, vous savez, la loi est d'une complexité. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir perdre les gens, ne serait-ce qu'avec un choix de mots qui ne serait pas adéquat. Alors, nécessairement, nos explications ont à être adaptées. C'est entre autres le rôle du notaire. Son devoir de conseil, c'est de s'assurer que la personne qui a devant lui va donner un consentement qui sera libre et éclairé. Et donc, à partir de ça, devra adapter son discours avec les connaissances puis la situation de la personne qui est présente devant lui.
C'est intéressant de le voir comme ça. Vous êtes un spécialiste du consentement, donc.
Absolument. Le notaire, comme officier public, fait preuve de la date, du lieu, de la capacité des parties et de leur consentement libre et éclairé. Face à la loi, il y a une présomption qui est donnée que les documents qui sont signés devant un notaire, c'est beaucoup plus difficile de les remettre en question. Alors, on peut être en situation, par exemple, le meilleur exemple qu'on peut avoir, quand on signe un testament notarié, ce testament n'a pas besoin d'être validé devant les tribunaux pour venir confirmer que c'est bel et bien vous qui avez signé votre testament. Le notaire va faire preuve de votre identité parce qu'il aura pris des pièces d'identité, il va avoir validé que c'est bel et bien vous qui signez et qu'au moment où vous signez, vous comprenez qu'est-ce que vous êtes en train de faire.
Alors, OK, donc vous évitez un peu tout le branle-bas de combat que pour apporter le litige ou la vie en...
Et moindrement qu'on a un doute quelconque ou qu'on est en présence d'une personne qui vit une situation particulière parce qu'elle a eu des problèmes de santé sous médication, est hospitalisée autrement, on s'empresse d'aller chercher un document du médecin qui va être ni plus ni moins qu'un joker qu'on va mettre dans notre manche parce que de cette façon-là, le médecin, lui, vient appuyer d'un point de vue médical la capacité physique. Alors, lui confirme que la personne, elle est capable de donner son consentement et ça, en plus du document de notarié, ça devient pratiquement blindé. Là. C'est très, très, très difficile dans un cas comme celui-là d'arriver à faire une démonstration contraire.
Alors, donc, Maître Fréchette...
C'est un exemple là, de ce qu'on peut faire.
Maître Fréchette, donc, vous êtes souvent l'homme du patrimoine.
Hein? Oui.
C'est ce qu'on dit. Expliquez-nous votre pratique particulière dans ce domaine.
Alors, en ce qui me concerne, depuis une vingtaine d'années, j'ai développé une expertise auprès des familles qui ont des personnes vulnérables dans leur entourage, des personnes handicapées, on a fait en sorte de mettre en place des structures testamentaires qui vont être adaptées pour la transmission puis pour la protection de patrimoine. Donc, des testaments, par exemple, qui vont être avec des structures de fiducie dans lesquelles on se dit, dans un cas où une personne n'est pas en mesure d'administrer elle-même, les biens vont être transmis à cette fiducie qui va voir à veiller sur la personne. Et veiller sur quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on le fait physiquement nous-mêmes, ça veut dire qu'on voit à s'assurer que ça puisse se faire. Alors, on regroupe des personnes deux, trois personnes qui vont agir comme fiduciaires et qui vont administrer les sommes en question. Évidemment, l'objectif qu'on a en tête, c'est d'éviter que ce soit le curateur public, par exemple, qui devienne l'administrateur des sommes pour permettre aux parents de mieux définir leur volonté, comment les choses vont être faites, etc.
Est-ce que les personnes vulnérables peuvent avoir plus facilement disons, pas juste accès, mais pouvoir de décision quand on a une structure plus alternative?
L'intervention qui se fait à ce moment-là dans les précisions qu'on va donner, on peut donner quand même plus de détails. Alors, moi, j'ai appelé ça un mandat humain. Mm-hmm. Alors, c'est pas seulement une vision juridique, financière ou fiscale, mais les parents peuvent venir préciser leurs valeurs humaines dans la façon qu'on va s'occuper de leur enfant. Mm-hmm. Et à partir de ça, donner un état d'esprit, définir un petit peu mieux leur approche pour outiller les fiduciaires qui auront administré ou les mandataires ou les liquidateurs qui auront à gérer les sommes d'argent. Ben, c'est un petit peu comme s'ils se mettaient dans leurs souliers et puis essaient de mieux saisir leurs pensées.
Donc, vitement pour que les gens comprennent,
préciser des choses.
Un fiduciaire, c'est quelqu'un qui est responsable de la fiducie, donc l'argent, les avoirs qui constituent un fonds. Puis les liquidateurs...
C'est la personne qui va régler la succession. Ce qu'on appelait jadis l'exécuteur testamentaire.
Ah oui, bon, voilà.
Alors, à court terme, la personne décède, le liquidateur va voir à régler cette succession, faire le nécessaire, payer les factures, récupérer les sommes d'argent qui sont dues, remettre les biens aux héritiers. Une fois que le travail du liquidateur est terminé, dans la mesure où on crée une structure de fiducie, ben ce sont les fiduciaires qui vont prendre la relève. Et là, c'est un rôle qui est à plus long terme. Quand on est en présence de personnes qui sont vulnérables, on n'indiquera pas que c'est pour un an, deux ans ou lorsqu'il y aura 25 ans. Okay. Habituellement, ça va être la vie entière. Ouais. On va gérer les sommes vraiment avec une vision long terme.
Et humaine.
Et humaine.
Voilà.
Et je vous dirais que c'est une distinction qui est fondamentale puisque on n'est pas strictement à gérer de l'argent, on est à veiller sur quelqu'un, prendre soin de cette personne, voir est-ce qu'elle s'épanouisse, voir est-ce qu'elle soit heureuse, voir qu'elle continue de développer ses capacités, maintenir les habiletés qu'elle a pu développer au fil du temps, et au fond, choisir les personnes appropriées pour pouvoir le faire.
Okay. On entend bien votre pratique. Bon, évidemment, on parle de patrimoine, de mandat humain pour pouvoir en disposer. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes impliqué beaucoup dans votre communauté. Entre autres, vous avez été administrateur du conseil d'administration des Compagnons de Montréal. Donc,
j'ai été le président de leur fondation
en plus,
également.
En plus, mais j'ajouterais, vous avez été un formateur pendant des années et même à la Chambre des notaires, vous avez été officier pour les questions de formation, que ce soit formation continue ou admission. Oui. Écoutez, donc, pour que les gens comprennent, admission, ça veut dire pour devenir notaire, formation continue, c'est une obligation, comme toutes les professions, il faut se former tout au long de la vie. Alors, j'ai une question à vous poser, là. Vous avez vu des cohortes de notaires, des personnes qui étudiaient pour devenir notaire. Oui. Diriez-vous que la profession de notaire est inclusive pour les personnes en situation de handicap?
Écoutez, ça dépend du type d'handicap. Il y a des limitations auxquelles une personne non-voyante, par exemple, d'être notaire nécessite qu'on doit confirmer, valider le consentement et l'identité d'une personne. Alors, vous comprenez qu'une personne non-voyante pourrait difficilement recevoir des actes notariés.
Oui.
Parce qu'elle ne serait pas capable de confirmer l'identité de cette personne-là de façon certaine. Par contre, j'ai des personnes qui sont malentendantes, qui ont des difficultés et qui, avec des appareils, malgré tout, sont notaires. Des personnes qui sont en fauteuil roulant qui sont notaires. Des personnes qui vont avoir eu différentes problématiques physiques et qui peuvent arriver à faire une pratique tout à fait normale.
Ouais.
Alors, en ce sens-là, il n'y a pas une limitation sur un point de vue professionnel. La Chambre des notaires, elle est totalement ouverte aux gens, pour autant qu'on soit dans une situation de respect de la loi, là, comme je disais, valider certaines informations, évidemment, il y a une contrainte physique. Mais pour le reste, non, définitivement, comme profession, tout ce qui peut être fait pour faciliter les choses, on le fait.
Okay.
Et au niveau du comité sur les admissions, bien, il y a des demandes qui nous ont d'accommodement, qui nous ont été faites à l'occasion et auxquelles on s'y est arrêté. Une personne qui va
ça
avoir
se passe assez facilement d'habitude.
Oui, écoutez, il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui qu'il y en a eu dans le passé. On regarde tout ce qui est des personnes qui vont avoir, par exemple, un déficit d'attention et qui vont avoir besoin de plus de temps pour faire un examen ou une personne qui aura besoin d'avoir des conditions pour être capable d'exercer au niveau de la pratique, pour autant que ça ne vienne pas en contravention ou avec la loi ou avec des conditions de normes de pratique, il n'y a aucune raison que...
Mais en fait, peut-être le travail qui reste encore à faire, puis j'entends bien là, toutes les difficultés, c'est peut-être de trouver un moyen que les personnes aveugles, avec des adaptations avec un truc équivalent à orbite.
Éventuellement, on va se retrouver avec des avancées technologiques.
Oui, c'est ça.
On pourra être capable d'avoir d'autres vérifications biométriques ou autres de l'identité d'une personne qui probablement pourrait régler une partie du problème. Là, on sait qu'on est prêt avec des contraintes physiques en ce moment.
Okay.
On a à identifier la personne et quand moi je prends la carte d'assurance maladie d'une personne, puis je regarde, j'ai à valider
sa photo et les
informations. Donc,
les gens peuvent avoir des pièces d'identité ou des preuves sous tout support.
Ouais.
Ça ne veut pas dire même que c'est électronique ou que ça peut être lisible par un appareil.
Exactement.
Donc,
et qu'on peut revalider avec la personne qui est devant nous. Alors, c'est une contrainte physique qu'on a dans ce cas-ci, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ouverture pour toutes les autres choses qui ont été faites.
Mais dans le domaine du notariat, une personne aveugle pourrait quand même travailler, enfin, je ne sais pas, je pense au 800 notaire de la Chambre ou ailleurs.
C'est que d'être notaire, ça veut dire qu'on a à être en mesure de recevoir des actes.
Okay.
Et donc, à partir de ça, il y a une contrainte qui, à mon sens, est problématique parce que lorsque une personne est admise à pouvoir pratiquer, elle est admise à pouvoir faire toute la pratique. Il n'y a pas des limitations. Et donc, si une personne ne peut pas rencontrer cet élément-là, je dirais qu'il y a peut-être un élément là qui est plus problématique pour ça.
Donc, il faut travailler là-dessus.
Toute autre problématique, je dirais, on est en mode de recherche de solutions.
Parfait. Écoutez, vous avez une feuille de route longue. Malheureusement, on ne pourra pas en témoigner davantage à cette émission, mais on sent bien...
Il y aura bien d'autres occasions de le faire.
Voilà, ça sera un plaisir. Il y a le mois de la justice là, qui approche bientôt. On en reparlera peut-être. Donc, je vous merci beaucoup, Maître Laurent Fréchette.
Ça a été un grand plaisir et je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Malgré les intempéries. Bonne journée, Maître Fréchette.
Au revoir.
Au revoir.